Peut-être que vous allez pouvoir comprendre le sujet. C'est quelque chose, un message sur l'épître aux Romains. Alors, l'épître aux Romains, c'est d'abord une lettre qui est arrivée à Rome. Cette lettre, ce n'était pas une lettre comme ça, ce n'était pas une lettre envoyée par avion. Bonjour, on commence juste, hein. Voilà, alors c'est l'épître aux Romains, c'est pas c'est une lettre qui est arrivée à Rome, mais ce n'est pas une lettre qui est arrivée par avion, comme on voit là. Elle est arrivée, elle ressemblait peut-être plus à ce qui est à côté, mais elle a été transportée. Transportée par quelqu'un, un chrétien, une chrétienne peut-être, qui a apporté cette lettre donc aux croyants de la part de Paul. Alors si j'ai mis ce titre, eh bien c'est un peu particulier, hein, c'est peu pour être un peu cool. Eh bien, quand on recevait autrefois, parce que maintenant c'est les mails, c'est autre chose, mais quand on recevait le courrier, on était quand même souvent content quand c'était des lettres qui arrivaient de quelqu'un qu'on aimait, qu'on attendait. Et donc, une lettre qui arrive, qui devait être très épaisse, puisque l'Épître aux Romains, c'est 16 chapitres, et donc une grosse lettre qui arrive, donc il y a eu certainement ce cri de joie pour certains, waouh, nous venons de recevoir une lettre de Paul. Alors, il y en a peut-être qui avaient la conscience moins tranquille et eux se sont dit, ouh, qu'est-ce qu'il va nous dire encore celui-là? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Est-ce qu'il ne va pas nous faire une petite leçon? On attendait cette lettre. Certainement, c'est la mauvaise lettre, celle qu'on ne voulait pas recevoir. Vous voyez, il peut y avoir tous les points de vue pour chacun. Alors j'ai mis les Romains en signature de cette petite phrase. Et puis j'ai mis et, point de suspension. Eh bien, on va voir. Peut-être qu'elle ne s'adressait pas qu'aux Romains, en fait. Alors tout d'abord, l'auteur, donc l'auteur c'est Paul, c'est écrit dans la parole, il est marqué au chapitre premier que c'est Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, etc. La période, j'ai fait confiance à ce qui a été écrit, c'est environ l'an 58, il y a des recroisements dans les textes qui permettent à peu près de savoir que c'est à peu près dans ces dates-là. Alors c'est une lettre de Paul, mais elle a été écrite par Tertius, parce qu'on sait que Paul avait quelques difficultés pour voir, et il devait dicter ses lettres, certainement, hein, puisque c'est Tertius qui dit qu'il a écrit de la part de Paul. On trouve ça au chapitre 16, au verset 22. Et puis on a même une précision supplémentaire au verset 23. Elle a été écrite dans la maison de Gaius, et à Corinthe, donc la lettre est partie certainement de là-bas. Donc écrit par Tertius et elle était écrite dans la maison de quelqu'un d'autre à Corinthe. Les destinataires, c'est écrit au chapitre premier toujours, c'est écrit que c'est pour les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Donc ça c'est au verset 7, saints par vocation ou saints appelés. Ça s'adresse donc pas forcément à une église, mais on sait que les croyants ensemble forment une église. Ça s'adresse aux bien-aimés, aux croyants qui sont à Rome. Donc tous les croyants qui sont à Rome. Alors, au nombre de pages, on ne peut pas savoir, hein, c'était du manuscrit, hein, donc j'ai mis 16 chapitres, donc c'est une lettre qui est longue. Alors, l'origine de l'Église de Rome, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que le jour de la Pentecôte, eh bien, quand l'Esprit est arrivé sur les chrétiens qui étaient là, sur les disciples, eh bien, il y a eu, en Acte 2, il y avait à Jérusalem beaucoup de monde autour. Et on voit qu'il y avait, c'était comme à Marseille ou dans certains pays, certaines régions, il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, etc., etc., de l'Égypte, vous voyez, de la Libye, de Cyrène. Et puis il y avait aussi des résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion. Et chacun entendait ce jour-là annoncer des merveilles de Dieu dans sa langue. Donc, ces personnes qui étaient des Galiléens, les disciples, subitement, ils parlaient, ils annonçaient les magnifiques choses de Dieu dans la langue de tous ces gens. Voilà, alors le parler en langue, il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites. Je trouve que c'était une belle occasion ici. Maintenant, voilà. Je ne peux pas en dire plus là-dessus. Alors, en tout cas, ces personnes ont vu des choses merveilleuses et ils sont repartis. Et ça, et ils s'aimaient. Et arrivé, quand ils sont retournés à Rome, eh bien, certainement qu'ils ont dû ensuite écouter les conseils de Paul et puis des autres chrétiens, et ils se sont réunis entre eux. Alors, je ne vais pas faire du classique, et ce n'est pas pour changer, ce n'est pas du tout pour changer, c'est parce que j'ai lu ce. On va voir après. Voilà, donc on dit souvent que, j'ai mis, que l'Épître aux Romains, eh bien, c'est le salut par la grâce, c'est la justification. Ce qui est vrai, c'est toujours vrai, c'est les rapports de l'Évangile et de la loi mosaïque, la loi de Moïse. Et puis, il y avait aussi des recommandations pour vivre la foi et pour vivre ensemble. Alors, c'est vrai. C'est vrai, mais je ne veux pas du tout faire un copier-coller de ce qui a été dit. Je voulais simplement dire ce que j'ai pu voir, ce que l'Esprit de Dieu m'a montré dans un chapitre de l'Épître aux Romains. Et ensuite, après, on va pouvoir remonter tous les chapitres. Alors, tout ça, c'est bien sûr toujours juste. Hein. Je vous dis de suite. Hein. On n'a rien, on ne change rien à ce qui a été dit. Alors, j'ai mis chapitre 16. Et si on commençait par la fin ? Alors, il y a différentes façons de lire la Bible. On peut l'ouvrir comme ça, et quand on est pressé, et trouver un encouragement. Attention au contexte quand même, bien sûr, quelquefois, suivant ce qu'on lit. Voilà, si quelqu'un nous racontait l'histoire la semaine dernière, si on ouvrait la Bible en disant « Judas est allé se suicider, se pendre », évidemment, c'est pas un message qui nous est envoyé. Hein. Voilà, bon, c'est un exemple qui porte à sourire. Mais c'est pour dire, par contre, quand on voit un chapitre, on ouvre au hasard, comme ça nous arrive bien souvent, eh bien, on voit des choses merveilleuses sur la parole de Dieu. Là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Vous voyez, j'ai ouvert au hasard, et on peut partir tranquillement dans la journée en disant « Mon trésor est avec Jésus ». Voilà, c'est un exemple. Alors, si on commençait par la fin, chapitre 16. Alors, j'ai lu il y a quelques semaines, peut-être, ce chapitre, et en lisant ce chapitre, je me suis posé un peu des questions. Verset 1er, donc on commence. « Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca, ou Priscilla, suivant les endroits, et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Saluez aussi l'Église qui s'est réunie dans leur maison. Saluez Païnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles qui était éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Il y a encore la suite, hein, après. Alors, quand on lit ce texte, on se dit il faut saluer plein de monde. Maintenant, voilà, c'est fini, ils ne sont plus là. Hein. Et puis, si on regarde à travers, on est un peu surpris quand même de voir que Paul, qui écrit une longue lettre, qui est écrit à des gens de Rome, va dire des considérations pour presque toutes les pour quelques personnes de Rome, alors que normalement ils devraient le savoir. Et quand on voit alors la première par exemple, Phoebé. Alors Phoebé, elle est encore vers Corinthe, à Sancré, par là-bas, en fait, en Asie certainement. Et puis il dit qu'il faut que vous la receviez. Alors est-ce que l'Église recevait les nouveaux? Est-ce qu'ils savaient recevoir les nouveaux? C'est une leçon qu'on reçoit quelquefois. Il faut qu'on leur dise, on vous recommande Phoebé. Phoebé, elle a fait beaucoup de choses. Il faut que vous la receviez. C'est personne qui mérite, quelqu'un qui mérite. Elle est digne des saints, vous voyez. Voilà. Puis après, il y a tous les autres exemples. Aquilas et Priscilla. Ils étaient à Rome avant. Et puis, il y a eu les persécutions. Ils sont partis. Ils sont allés en Asie. Ils ont beaucoup voyagé. On les voit dans le Nouveau Testament, dans les livres des Actes, et puis ou dans les Épîtres. Et puis, ils retournent à Rome. Alors, quelquefois, on pourrait se dire, bon, ils étaient chez nous, ils sont partis, ils reviennent, c'est bon, hein, maintenant, il y en a marre, quoi. Il faut savoir qu'ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Eh bien, non. L'apôtre leur dit, voyez, il faut les saluer. Je les salue, ceux-là. Ce sont des gens qui sont auxquels on peut rendre grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens qui leur rendent cette grâce. Et en plus, ils ont une église dans leur maison. En plus, ils témoignent et ils ont des personnes qui viennent. Vous voyez, quelquefois, on oublie certaines personnes. Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour vous les prémices de l'Asie. Et puis, il a pris beaucoup de... Saluez Marie. Marie, elle a pris beaucoup de peine pour vous. Alors, pourquoi il salue quelqu'un qui a pris de la peine pour les gens de Rome? Ça paraît bizarre, il pourrait dire pour moi. Non, c'est pour vous. Alors, peut-être qu'il ne reconnaissait pas cette peine qu'avait pris Marie. Marie s'était beaucoup occupée, certainement, de cette église, en fait, des nouveaux chrétiens à Rome. Et Marie était peut-être oubliée. Salut Andronicus et Junias, etc. Vous voyez, donc chacun a quelque chose, une petite parole. Celui qui est Androdicus et Junias, on doit l'appeler le nouveau converti sûrement. Eh bien non, il a été converti avant moi, dit Paul. Vous voyez, donc on pourrait continuer pour chacun. On sait que le Seigneur Jésus a dit « Nul n'est prophète en son pays » et que quelquefois c'est ceux qui sont les plus proches qui sont rejetés. Mais on sait que le Seigneur a été rejeté. Si on continue au verset 12, Tryphène, Tryphos qui travaillent pour le Seigneur, Persique, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, ils sont chez eux. Pourquoi il faut leur rappeler ces choses? Salut Rufus, l'élu dans le Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne, ce fameux Rufus, on pense que c'est celui que son père, qui s'appelait Simon de Cyrène, a transporté la croix. On pense, d'après les recensements de la Bible, que c'est lui. Bon, ça peut peut-être en être un autre. Hein. Voilà. Et donc, cette personne, ce Simon de Cyrène qui a porté cette croix, eh bien, il avait une épouse, il avait deux fils, je crois, et dont Rufus, ici. Et Rufus se trouve à Rome. Et il demande aussi de le saluer. Et puis, tous les frères, etc. Et tous les saints. Et puis, il y a ce verset 16. Alors, ça tombe, on dirait vraiment comme un cheveu sur la soupe, quoi. Il écrit à une assemblée, il salue des personnes, et puis après il dit « Saluez-vous entre vous par un saint baiser ». Alors, on est en période de Covid, et moi je vais bien faire la bise avant, hein. Bon, maintenant on ne la fait plus, mais il y a quand même le baiser du cœur. Et je crois que si l'apôtre Paul le dit ici à cette église, il n'y avait pas le Covid à l'époque, s'il leur dit de se saluer par un saint baiser, eh bien, peut-être qu'ils en avaient besoin d'avoir cet encouragement. Il faut qu'ils soient montrés qu'ils s'aiment et se saluer ainsi. Mais pourquoi il dit ça? S'il leur dit, c'est bien qu'ils en ont besoin, certainement. Pourquoi écrire une lettre à quelqu'un en disant, on ne serait pas un peu vexé si on recevait une lettre de quelqu'un, un grand ami, puis qui nous dit, entre vous, là, Marie-Claire et Jean-Claude, pensez à vous embrasser, quoi. Voilà, c'est presque ça. Hein. Toutes les églises du Christ vous saluent. Et puis, ça continue, le verset 17. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Donc on voit finalement que dans toutes ces personnes-là, il y a eu certainement des personnes qui étaient moins aimées, rejetées, et puis certainement ça a dû causer des dissensions, des divisions. Et alors l'apôtre les exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Le mot division, c'est assez compliqué. Souvent ça peut être aussi des façons de penser. Et puis, il y a aussi le schisme. Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des schismes, c'est-à-dire une cassure qui ne reviendra plus. Donc ça, il faut éviter, évidemment. Alors, avec ce chapitre, je me suis dit, il doit y avoir des problèmes dans cette église de Rome. On a vu, semble-t-il, ce manque d'amour, de reconnaissance de certains frères et sœurs qui travaillent pourtant, qui sont dévoués, qui font des choses, qui ont des églises dans leur maison, qui sont des personnes qui ont vraiment témoigné. Il y a des divisions, des responsables de scandales, de chutes. Et puis, on voit aussi au chapitre 2, puis au chapitre 14, qu'il y a un jugement de l'autre. Au chapitre 2, verset 1, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi tu juges, tu fais les mêmes choses. » Et puis on voit au chapitre 14, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, au verset 13, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion d'achoppement ou de chute, ou de scandale. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. » Et puis au verset chapitre 14, au verset 4, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ?» Verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou aussi toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Car nous comparaîtrons tous devant, mais j'ai écrit celui-là, le tribunal de Christ. » L'apôtre Jacques avait dit que le jugement est sans miséricorde, sans pardon pour celui qui n'a pas fait de miséricorde aux autres. C'est quelque chose qui nous parle, qui me parle. Ne jugeons pas les autres. On discutait avec Annette cette semaine, au téléphone, longuement d'ailleurs, et on disait qu'il faut arrêter de critiquer les autres pour des petites choses, il faut arrêter, il faut montrer qu'on s'aime, ce que a dit Annette. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, l'amour de Dieu, l'amour pour les autres, des cœurs qui vibrent, la miséricorde. On disait autrefois que c'était être sensible du côté du cœur à la misère des autres, à la souffrance des autres. La miséricorde triomphe du jugement. Et on voit dans chapitre 2, des versets 17 à 23, on voit ce « toi qui », un jugement de l'apôtre Paul, « toi qui, on ne va pas tout lire, mais toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie, etc. Toi qui te flatte d'être le conducteur, voyez tous ces toi qui, eh bien, voilà, c'est un jugement. Toi qui, eh bien, ce sont des personnes qui devaient se dire, moi j'ai la connaissance, moi je suis, moi j'ai, je fais, moi j'enseigne les autres, etc. Eh bien, voilà, toi qui te fais une gloire de la loi, ça devient une loi. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, eh bien, c'est quelque chose, des versets qui sont parlants. Vous voyez, cette lettre aux Romains, finalement, elle apporte quelque chose à chacun, et elle m'a apporté quelque chose. Il est dit aussi, au chapitre 8, il est parlé de la loi du péché, la loi de l'esprit de vie, et puis en quelque sorte, la loi de l'amour. Au chapitre 8, au verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'esprit de vie, c'est la loi divine, la loi de l'amour, c'est la loi royale, la loi qui a été envoyée par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu, et... j'ai oublié. Et il est... ton prochain comme toi-même, et Dieu, comment c'était au départ, c'était au départ. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'amour, il y a en chapitre 13 au verset 9, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déromperas point, tu ne convoiteras point, etc. Tu aimeras ton prochain, ils se résument tous en une parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. La loi de l'amour, la loi royale, la loi de l'esprit de vie. L'amour ne fait point de mal au prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors quelquefois, c'est des versets qu'on peut aussi un peu inverser. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On doit s'aimer. Et quelquefois, on peut être dans une situation de santé où on ne s'aime plus finalement. Où on se dit, je suis le moins bon, je suis un pécheur, je ne suis pas parfait, je suis... Voilà, toujours quelque chose qui ne va pas. Eh bien, à ce moment-là, je crois qu'on ne s'aime pas. Et Dieu nous demande de nous aimer, puisqu'on est fait à l'image de Dieu, à l'image de Dieu, eh bien, on doit s'aimer, et la parole de Dieu nous y invite. Donc, s'aimer soi-même, pas en faire une gloire et monter notre corps, mais on doit s'aimer. S'aimer soi-même, et ensuite, on pourra aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il est dit, l'épître de Jacques, je crois, non, je ne sais plus, que dans ces circonstances-là, on ne fait pas du mal à son propre corps. Eh bien, évidemment, on ne fera pas du mal aussi à son prochain et à son frère. L'amour est l'accomplissement de la loi, une belle loi. L'amour couvre une multitude de péchés, dit l'apôtre Pierre. Quiconque observe la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable, dit l'apôtre Jacques. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Et puis, Galates 5, verset 8, « Si vous êtes conduit par l'Esprit, alors vous n'êtes plus sous la loi. » C'est cette loi de l'amour. Alors, la lettre est arrivée, les circonstances sont là, elles sont décrites. Comment parler et aider positivement pour régler ce problème? Alors, il y a plein de choses, de livres écrits sur ce sujet. Cette semaine, il y avait une conférence sur ce sujet. Plusieurs l'ont pu l'écouter. Et puis... L'Épître aux Romains nous donne quelques pistes aussi. Alors, dès qu'on commence au chapitre 1er, au verset 8, l'apôtre Paul va dire « Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » On parlait dans le monde entier de la foi des Romains, de cette église de Rome. Mais est-ce qu'on parlait vraiment dans le monde entier de cette foi ? Au ciel, oui, on en parlait. On en parlait certainement à Jérusalem, on en parlait certainement dans toutes ces églises où était passé l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose pour lui qui est sincère. Votre foi est renommée, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des enfants de Dieu. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. L'apôtre Paul va leur dire, je vous aime, je fais mention de vous. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Et voilà l'apôtre qui vient pour faire une leçon, ou plutôt il rajoute, il se corrige. Il aurait pu ne pas écrire le début de la phrase, mais l'apôtre va rapporter de la part de Dieu. Mais l'apôtre vient plutôt pour s'encourager tous ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Aimer son frère, sa sœur, notre frère, mon frère, ma sœur, m'apportera. Il veut m'apporter, il veut me donner, si je l'écoute, il m'apportera, il m'encouragera, et c'est ensemble qu'on peut grandir, qu'on peut progresser. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Il ne vient pas avec son panier et dire, voilà, je vais vous donner les fruits que j'ai reçus moi, de la part de Dieu. Non, il vient pour cueillir quelques fruits chez son frère, chez leur frère, enfin chez son frère et sa sœur. Voilà, nous devons voir les fruits, voir ce qui est beau, comme on avait dit il y a quelque temps, prendre les fruits de mon frère, de ma sœur. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, alors là, on a tout cet affranchissement, est devenu esclave de Dieu. Alors quand on est esclave de Dieu, ce n'est pas une punition, c'est serviteur de Dieu, c'est Dieu qui... c'est pour dire qu'on est attaché à Dieu, qu'on veut vivre pour Dieu, esclave de Dieu, c'est un, finalement un beau titre. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Là, c'est peut-être pas spécialement pour les Romains, c'est un message qui est vraiment pour tous, mais les Romains étaient aussi concernés. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Un fruit encore, un fruit du croyant, du chrétien, la sainteté. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et alors, il est parlé après des fruits de la mort. Il y a les fruits de la vie, les fruits de l'esprit, et puis il y a les fruits de la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. De reste, verset 4, chapitre 7, verset 4, « Mes frères, vous avez vous aussi été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. » La loi, c'est terminé pour l'apôtre, pour que vous apparteniez à un autre. Et il parle aux Romains, il nous parle à nous, il parle à chacun, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Vous voyez, l'apôtre qui leur écrivait, voilà, maintenant c'est fini, vous avez été mis à mort pour la loi, et maintenant vous êtes ressuscité, c'est un peu le baptême, vous êtes ressuscité pour porter des fruits pour Dieu. C'est des nouveaux fruits, ce n'est pas des fruits pour la mort, c'est des fruits pour la vie. C'est des beaux fruits, des fruits comestibles, des fruits qu'on aime, des fruits qu'on veut donner, des fruits que quand on les reçoit, on est heureux. Et au chapitre 16, au verset 19, encore un compliment de l'apôtre. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. L'obéissance de ce peuple, de ces chrétiens, connus de tous, dit l'apôtre, cela nous rappelle comment le Seigneur Jésus voyait ses disciples. Ils ont gardé, il disait, ils ont connu, ils ont reçu. Quand le Seigneur Jésus parlait, priait à son Dieu, et il parlait de ses disciples, ceux qui dormaient quand le Seigneur Jésus était en prière, en galère, eh bien, le Seigneur Jésus, en Jean 17, va dire, ils ont gardé, ils ont connu, ils ont reçu, je suis glorifié en eux. Je suis glorifié en eux, le Seigneur est glorifié en nous, comme nous sommes. Garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un comme nous. Alors, il y a quand même une prière du Seigneur. Ils sont, ils ont connu, ils ont reçu, etc., ils ont gardé. Mais garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un. C'est peut-être le point le plus difficile. On fait des choses pour le Seigneur, mais on doit rester ce un, cette unité. Mes frères, mes sœurs, voilà, nous sommes un pour le Seigneur. Alors il y a, à la suite ou dans tout le livre, l'épître, dans toute la lettre, il est parlé beaucoup de l'esprit. Et j'ai parlé des outils de la délivrance, la loi de l'esprit qui m'a libéré. Au chapitre 5, au verset 5, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. À la conversion, eh bien, on reçoit l'Esprit de Dieu en nous. Et alors, on ne doit pas attrister cet Esprit de Dieu, bien sûr. On doit le laisser grandir en nous. Et Dieu le veut. Je vous ai plusieurs fois raconté ce que le chrétien devrait être, un peu comme ces vieilles arrosoirs qu'il y avait autrefois, qu'on remplissait d'un côté, et puis quand on le laissait sous le robinet, on voyait qu'il sortait de l'autre côté, et il n'était jamais plein, parce qu'en fait, le dessus était un peu plus haut, et donc il se remplissait et ça coulait. Voilà, un chrétien, c'est cela, l'Esprit de Dieu qui coule en nous, qui est en nous, qui habite en nous dit la parole de Dieu, et cet Esprit, il est répandu dans nos cœurs, et il est répandu dans le cœur de ceux qui sont autour de nous. Chapitre 8, verset 2, « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » On l'a lu, « Nous marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Et la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'Esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Que Dieu nous donne à chacun cette vie et cette paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs dans le Christ Jésus. Pour vous, verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, c'était au chapitre 8, hein. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. On a vu qu'on pouvait attrister l'Esprit de Dieu par notre comportement ou autre. Verset 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Notre corps est maintenant... Notre corps est maintenant immortel. Si nous savons que l'apparence va être détruite, nous savons qu'il y a une résurrection. Et nous savons que le corps poussière va redevenir vie. Nous savons que l'Esprit de Dieu habite en nous et qui restera en nous. Nous savons que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera aussi. C'est la pleine confiance que nous pouvons avoir. Chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, mais justice, paix. Et joie par le Saint-Esprit. Alors, je pense que c'est important de se dire que quand je ne suis pas dans la paix, eh bien, je peux demander que Dieu agisse par son esprit dans mon cœur, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je n'ai pas cette joie, malgré l'épreuve, cette joie intérieure, la joie, la paix, ça peut être lié, c'est à la souffrance, mais cette joie intérieure ou cette joie apparente, eh bien, c'est aussi parce que le Saint-Esprit n'est peut-être pas en moi pendant cette période de ma vie. Alors que Dieu nous guide, au chapitre 15, au verset 13, cette belle prière, que le Dieu d'espérance vous ou nous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est la prière de l'apôtre pour les Romains, c'est sa prière, la prière de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. De toute joie et de toute paix en croyant. L'Épître aux Galates nous parle du fruit de l'Esprit. Je me rappelle au début, il y a quelques années, je disais les fruits de l'Esprit, puis un jour un frère m'a dit c'est le fruit. C'est quelque chose qui se... Mais bon, après il ne faut pas chicaner non plus hein, sur les mots. C'est quelque chose qui ne se sépare pas, c'est le cadeau de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la parole de Dieu nous dit contre de telles choses. C'est beau, n'est-ce pas? Contre de telles choses. Il n'y a pas de loi. Voilà. C'est la loi de l'amour. Quelques mots sur le chapitre 12. La voie royale, je l'ai appelée. Alors la voie royale, pourtant, il y a des choses qui sont peut-être particulières. Alors, on peut se dire, on a envie quelquefois d'avancer tous ensemble et de pousser notre sœur ou notre frère, la pousser pour qu'elle avance aussi. Et puis on est fatigant, on est lassant pour les autres. Non, chacun doit avancer à sa vitesse. Chacun, bien sûr, on doit s'encourager, s'aider, et alors on fera envie aux autres. Et les autres ont envie aussi d'avancer. Mais on ne doit pas pousser par des paroles bêtes quelquefois, qui sont inutiles. On doit chacun avancer à sa vitesse. Et alors, il est dit au chapitre 12, au verset 1, je vous exhorte, frères, mais c'est frères, sœurs, c'est les croyants. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, on l'a chanté ce matin, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps, c'est pas se donner et mourir devant les autres ici présents. Non, c'est donner son corps, donner sa vie, donner ses biens, donner ce qu'on a, son énergie, sa jeunesse, sa vieillesse, si... aussi, pourquoi pas, donner à Dieu. Et alors, ce sera un culte, une louange intelligente, quelque chose, un service intelligent. Au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre façon de penser, de l'intelligence divine, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est écrit, c'est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas une loi, c'est quelque chose d'agréable, de bon, de parfait pour nous. Dieu nous a, c'est le plan de Dieu. Dieu veut nous montrer ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est agréable. Si on marche dans ce plan, on va le connaître. Si on ne marche pas dans ce plan, on ne le connaîtra pas. Mais c'est le plan de Dieu. Et comment le discerner ? Eh bien, en acceptant ce renouvellement de l'Esprit de Dieu en nous. Par la grâce, verset 3 qui m'a été donné, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une haute, trop haute opinion, une trop haute pensée, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors j'ai mis des petites flèches, on doit progresser, on doit grandir dans cette foi, dans cette connaissance du Seigneur Jésus, de son amour. On doit discerner cette volonté, cet amour de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par contre, là, j'ai mis la flèche vers le bas, il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas se croire meilleur que les autres. Il faut se dire qu'on est petit, qu'on est humble, ici, de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Être modeste, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, eh bien, on va pouvoir servir. Verset 9, des choses concrètes. Que l'amour soit sans hypocrisie, sans hypocrisie. C'est pas du vent, il faut que ce soit du vrai, du vécu. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Alors, on sait que quand on commence à toucher au mal, ben c'est un peu comme ces boulets, un peu comme des maillons d'une chaîne avec des boulets à chaque fois attachés, et c'est chaque fois un boulet de plus, et c'est finalement des contraintes, des problèmes, des difficultés. Si le Seigneur nous dit ça, si la Bible nous dit ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Attachons-nous au bien, ayons en horreur le mal. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. L'amour sans hypocrisie, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres, les uns pour les autres. Ayez du zèle, non de la paresse. Servant, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous, encore la joie chrétienne en espérance. Soyez patient dans l'affliction, facile à dire quand tout va bien, mais on a des témoignages de nos frères. N'est-ce pas, Jean-Robert, il y a eu beaucoup qui ont souffert. Dieu donne à ces moments-là. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, c'est important, et puis ça fait plaisir de voir de plus en plus de frères et sœurs aux réunions de prière, et puis à d'autres moments comme ça dans la prière. Dans les maisons aussi, on entend parler souvent maintenant. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, et puis ce conseil du verset 14 et du verset 15, bénissez ceux qui vous persécutent. C'est vraiment les mêmes propos que le Seigneur donnait. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la gauche. C'est difficile, hein? C'est difficile, on a toujours envie de se défendre et de dire de sortir nos grands moyens et nos grandes armes. Non. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Si on attise la haine, eh bien la haine va s'aggraver, va continuer. Bénissez ceux qui vous persécutent. Voilà. Et puis, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est aussi l'enseignement des Épîtres et du Seigneur. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est l'amour fervent, sans hypocrisie. Mon frère, tu souffres. Mon frère, ma soeur, je veux me mettre dans ta douleur. Explique-moi, et voilà. Et puis, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pas de jalousie. Voilà, je souffre, c'est un temps comme ça. Mais Dieu permet qu'il y ait des moments chez mon frère, chez ma sœur de joie. Alors réjouissons-nous ensemble. Et puis quelquefois, c'est tout mélangé, c'est les deux ensemble. La joie, les pleurs, mais voilà, c'est la vie de famille. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous penser pareil. Non, on ne peut pas tous penser pareil. Il y a des différences d'âge, de génération, des différences culturelles, des différences de façon de voir. Eh bien, pourtant, on doit avoir un même sentiment en Jésus-Christ. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. On retrouve encore l'humilité. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est toutes des choses qui sont simples, mais sur lesquelles il n'y a pas de commentaire à donner. Au verset 17, c'est encore dans la même lignée. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère, car il est écrit de moi, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. C'est lui qui va se dire, mais c'est pas possible. C'est celui à qui je lui ai fait mal, qui vient m'apporter à manger, qui vient m'apporter à boire, qui m'apporte cette parole de réconfort. Eh bien, voilà, c'est un peu comme des charbons ardents, une flamme, un tison qui vient se poser sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est encore la même chose. Alors, chapitre 14, un plan pour traverser la tempête. C'est le plan de cet évangile, de cet épître. Et ça reste encore dans des choses qui sont simples, qui sont concrètes. Chapitre 14, verset 1, « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. » Voilà, on peut parler, se titiller entre nous des choses qui sont sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord. Ne discutez pas des opinions, accueillez. Il faut savoir s'accueillir. Et puis là, il y avait un problème qui n'est plus un problème d'actualité pour nous. C'était un problème qui était lié à cette loi juive, à cette loi de Moïse, et puis ou divine, et puis au fait de pouvoir manger de tout ou pas manger de tout. C'est quelque chose qu'on pourrait entendre pour avec certaines religions, le judaïsme en parle encore. Mais ici, c'était des chrétiens. Et l'apôtre va leur dire, tel croit pouvoir manger de tout, certains vont dire ça, d'autres, qui sont plus faibles, ne vont manger que des légumes, ils vont dire, bon, la viande, c'est sacrifié à Dieu, donc attention, pas manger de viande. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Voilà, vous pensez différemment. Ce n'est pas le plus important. Chacun a été accueilli par Dieu. Qui es-tu, quoi, toi qui juges, verset 4, un serviteur d'autrui, s'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Alors, voilà. Mon frère insiste ou ma sœur insiste. Eh bien, c'est Dieu qui l'a accueilli. Je ne vais pas le juger. Il peut penser ainsi. C'est comme ça. Lui, il va manger. Moi, je ne veux pas manger tel mets. Mais non. Voilà, c'est ainsi. Et puis, il est dit à la suite. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà, il faut recommander son frère qui pense différemment au Seigneur ou sa sœur. Et puis Dieu a le pouvoir de l'affermir. Voilà, alors je crois que chacun peut recommander son frère, peut recommander sa sœur. Et Dieu, tous ensemble, nous serons affermis, nous pourrons grandir. Et merci pour vos prières pour moi. Tel fait une distinction entre les jours. Alors là, c'était au sujet des jours. Et c'était certainement lié au sabbat. Dans toute l'ancienne alliance, il y avait le sabbat et le Seigneur, finalement, eh bien, il respectait le sabbat, finalement. Hein. Et à part qu'il guérissait les malades le jour du sabbat, le sabbat était devenu n'importe quoi, finalement. On ne pouvait plus rien faire du tout. Il y avait quelqu'un qui était malade à côté, on ne pouvait pas le guérir le jour du sabbat. C'était quoi ce truc? On ne pouvait pas nourrir son animal le jour du sabbat. On avait fait, finalement, une idole. Alors, l'apôtre va dire ici, tel fait une distinction entre les jours de la semaine certainement, tel autre les estime tous égaux, tous les jours sont pareils, que chacun ait en son esprit une pleine conviction, celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Mon frère, ma sœur, fais ça pour le Seigneur. Eh bien, je dois le respecter, il fait ça pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Ne nous jugeons plus, dit l'apôtre ici, les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion de scandale, de chute. Grâce à Dieu pour une chose, eh bien, qu'on peut avoir. Mais déjà, pouvoir rendre grâce à Dieu. Quand on pêche, on ne peut pas rendre grâce à Dieu. Je crois que ce serait trop difficile. Eh bien, voilà. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, rendez grâce à Dieu. Et 1 Corinthiens 10, l'apôtre dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et là, la barre est encore un peu plus haute. Et alors après, eh bien, on ne va pas juger son frère. On ne fera pas ces distinctions. Voilà, il pense comme ça. Lui, il le fait pour le Seigneur. Et lui, il le fait aussi pour le Seigneur. Comment s'entendre? Il faut s'aimer. On continue verset 14, toujours de ce chapitre.
Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Bon, il était parlé des aliments. Hein. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas pour ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ainsi, donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'échappement ou une occasion de chute. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire du vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. Alors, c'est clair, c'est facile, mais c'est un sujet concret. C'est un sujet concret et ce sujet, c'était les aliments. Voilà. Et il y a d'autres sujets qui peuvent faire des dissensions, qui peuvent faire des points de discorde. Alors, il y a des choses, des petites règles qui peuvent rester. Il faut rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et puis, il peut y avoir finalement des moments où voilà, c'est moitié-moitié ou deux tiers, un tiers, j'ai pas fait de stats, mais un certain pourcentage important qui n'arrive pas à s'entendre sur un point. Je crois qu'il faut vraiment regarder ce qu'on a vu à la diapo d'avant, de ne pas se juger, de se dire « il fait ça pour le Seigneur, ils font ça, si c'est la moitié d'une église par exemple, ils font ça pour le Seigneur, ils font ça eux aussi pour le Seigneur, on doit s'aimer. » Alors, il faut aller dans les choses qui contribuent à la paix, mais il y en a la moitié qui pense quelque chose et la moitié qui pense autrement. Comment faire pour s'entendre ? Comment faire pour s'entendre ? C'est l'amour, c'est encore se respecter, s'aimer, se dire « ils font ça pour le Seigneur ». Alors, je les aime, je les respecte, et c'est le Seigneur qui va montrer lequel est dans le bon chemin. Alors, en conclusion, alors je ne veux pas que vous soyez déçus par rapport à cette étude sur l'Épître aux Romains, c'est un peu particulier. Hein. On est parti de la fin de tous ces commentaires qu'il y avait sur ces personnes dans cette ville de Rome, sur ces croyants. Des commentaires qui logiquement n'auraient pas dû être envoyés par quelqu'un qui était loin, eh bien, voilà, c'est des choses qui sont là pour nous parler. Et la parole de Dieu nous dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, c'est encore dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, au verset 4, ça a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Des choses qui n'ont pas été écrites par hasard, ça a été écrit pour nous instruire. Et verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne ou nous donne d'avoir un même sentiment les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une même bouche, nous glorifions, excusez-moi si je change les pronoms, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons pu faire ce matin, c'est la volonté de notre Seigneur, on ne peut pas le laisser des croyants désunis, des enfants de Dieu désunis. Le Seigneur Jésus ne le veut pas, ne le souhaite pas. La parole de Dieu ne nous y enseigne pas. D'une même bouche, nous pouvons et nous devons et nous louons notre Dieu et Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas vu, mais il est parlé beaucoup de la grâce dans l'Épître aux Romains. Et c'est quelque chose qui est important. La grâce qui règne par la justice pour la vie éternelle. La grâce, c'est le cadeau, c'est le pardon. La grâce qui règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce, c'est quelque chose, une qualité que nous devons avoir aussi entre nous. C'est la qualité première de l'amour de Dieu, de notre Seigneur. Toutes choses, au chapitre 8, ces beaux versets, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. On a cette promesse, on est des vainqueurs par celui qui nous aime, par Jésus-Christ, celui qui s'est donné pour nous. Chapitre 12, on a beaucoup parlé. Chapitre 16, savoir voir ce qui est beau en nous. Être sage pour le bien, éviter le mal. Un Dieu vainqueur, c'est notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, à celui qui peut vous affermir ou nous affermir. C'est au verset 25 de ce chapitre 16, de ce dernier chapitre. Alors, si l'apôtre Paul avait été au loin, à Corinthe, en ce moment, il aurait peut-être fait un mail, On a reçu quelquefois des mails de 15 ou 20 pages, et peut-être qu'il aurait dit saluer Luc et Mireille qui se sont occupés de tous les bébés, de tous les nourrissons de l'Assemblée. Ils s'en sont occupés avec tout leur cœur, et tous ceux qui avaient des bébés étaient contents de leur confier pour la garde. On pourrait continuer longtemps. Je crois qu'il y a un mot pour chacun. Salut et Mireille qui s'est beaucoup occupée des malades, des fatigués, des anciens. Mireille a fait un grand service. Mais on ne va pas continuer comme ça. Et je crois qu'il y a une qualité pour chacun. Regardons la qualité chez notre frère, chez notre sœur. Sachons nous saluer par ce saint baiser, même si maintenant il est plus presque spirituel, le baiser. Mais sachons quand même nous saluer ainsi, de la joie, de l'amour, la paix entre nous. Que la grâce, notre prière maintenant, de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Celui qui est puissant pour nous affermir selon mon évangile de l'apôtre et la prédication de Jésus-Christ. Ô Dieu qui seul est sage par Jésus-Christ, auquel soit la gloire éternellement. Amen. Et cette bénédiction, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de paix en croyant, afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.